Chers amis des cellules, bonjour. La semaine dernière, nous avions entendu avec l'évangile du deuxième dimanche de l'Avent un appel à la conversion, un appel qui était une joie car la voix de Dieu par les prophètes se faisait à nouveau entendre, une joie car le Messie vient, celui qui baptisera dans l'Esprit Saint, qui fera donc effectivement miséricorde, et pas seulement en espérance, Jean-Baptiste ne plongeait que dans l'eau et non pas dans l'Esprit Saint. C'était l'occasion aussi d'une confiance dans le jugement de Dieu, car Dieu est celui qui nous connaît, qui connaît les circonstances de notre vie, il est donc le bon juge, il nous aime profondément et veut notre vie, et donc le jugement qu'il exerce, c'est celui qui est capable de brûler en nous ce qui est mauvais pour consacrer, conserver ce qui est bon. Cette semaine, nous continuons dans le thème de l'appel à la conversion avec un passage plus loin dans l'Évangile. On passe du chapitre 3 au chapitre 11 de l'Évangile selon saint Matthieu. Notre texte de ce jour se trouve après l'envoi en mission des disciples et, pour structurer notre texte, l'arrivée et le départ des disciples de Jean-Baptiste est un bon indice. Les six premiers versets en présence des disciples de Jean-Baptiste vont tourner autour de la question « Es-tu celui qui doit venir ? Es-tu le Messie ?» Une question sur l'identité de Jésus. Et les versets 7 à 11, quand les disciples de Jean-Baptiste seront repartis, vont tourner autour de la question « Qui êtes-vous allé voir au désert ? » On est autour de l'identité de Jean-Baptiste. Et Jésus insistera, un prophète et même plus qu'un prophète. Au-delà de notre passage, le texte continuera par une lamentation de Jésus sur ces villes qui ne se sont pas converties, ni à l'appel de Jean-Baptiste, le nouvel Élie, ni face aux signes que Jésus a accomplis. L'évangile de ce dimanche, en ces deux temps, est donc marqué par la question de l'identité, celle de Jésus d'une part, et celle de Jean-Baptiste d'autre part. Lisons notre texte. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples, et par eux lui demanda, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. Qu'êtes-vous allé regarder au désert un roseau agité par le vent ? Alors qu'êtes-vous donc allé voir ? Un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allé voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète, c'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, » pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Je voudrais commencer en vous posant une question. Pourquoi, à votre avis, Jésus insiste-t-il pour faire réfléchir ceux à qui il parle sur l'identité de Jean-Baptiste? Pourquoi est-ce qu'il veut les faire réfléchir sur qui est Jean-Baptiste? On comprend que Jean-Baptiste puisse se demander qui est Jésus. Il ne voit pas les signes que Jésus accomplit parce qu'il est en prison. Mais pourquoi est-ce que Jésus trouve que c'est important que les gens prennent conscience de qui est Jean-Baptiste et de ce qu'il fait? Je vous invite à échanger pendant quelques minutes entre vous sur ce sujet. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que Jésus les fait réfléchir sur qui est Jean-Baptiste? Qui est Jean-Baptiste et donc ce qu'il fait? Vous pouvez suspendre l'enseignement quelques minutes pour échanger. Je présume que vous avez eu le temps d'échanger et je reprends maintenant l'enseignement. Si Jésus insiste sur l'identité de Jean-Baptiste, invite les gens à comprendre qui est Jean-Baptiste et ce qu'il fait, c'est que Jean-Baptiste est le signe qui est donné par Dieu pour comprendre que nous sommes entrés dans les temps messianiques, pour comprendre donc que Jésus est bien celui qui vient. C'est-à-dire que plus on a conscience que Jean-Baptiste est celui que Dieu envoie pour préparer les chemins du Messie, plus on a le cœur et les yeux ouverts pour découvrir que Jésus l'est effectivement. Jean-Baptiste est comme le grand signe indicateur que Jésus est le Messie. Rater Jean-Baptiste, c'est courir le risque de rater Jésus ou de ne pas comprendre jusqu'au bout qui est Jésus, que Jésus est le Messie, celui qui apporte la miséricorde de Dieu, celui qui apporte le renouvellement de l'histoire. En même temps, tout en manifestant la grandeur de Jean-Baptiste, il dit « Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste », Jésus manifeste que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et que donc, puisque Jean-Baptiste annonçait que le royaume des cieux s'était approché, il y a désormais un pas que l'on peut faire qui nous permet de devenir plus grand que cette grande figure de Jean-Baptiste. Comment cela ? Parce qu'il nous est donné d'entrer dans le royaume avec le Messie qui vient, d'entrer dans le royaume en allant auprès de Jésus, auprès de celui qui est le Messie, auprès de celui qui nous dit « Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute, parce qu'il est celui qui nous fait entrer dans le royaume ». Jésus invite donc à découvrir Jean-Baptiste dans toute sa grandeur, parce que Jean-Baptiste est le signe qui mène à Jésus, qui mène à comprendre que Jésus est le Messie. Et Jésus indique aussi Jean-Baptiste pour montrer que la grandeur de Jean-Baptiste est dépassable, est à dépasser, parce que maintenant lui, Jésus, est là, et que lui, Jésus, fait entrer dans le royaume. Et que donc ce que l'on a apprécié, admiré en Jean-Baptiste, nous pouvons désormais aller au-delà, passer de l'espérance à la réalisation en nous approchant de Jésus. Ainsi nous comprenons mieux l'objectif de ce troisième dimanche de l'Avent, que nous entrions dans la joie, souvenez-vous de ce que dit Jésus, heureux, que nous entrions dans la joie des boiteux, des lépreux, des sourds, des morts, des pauvres, de ceux qui vont à Jésus. Nous sommes appelés à aller à lui pour ouvrir notre cœur pauvre et recevoir la miséricorde et recevoir le pardon. C'est le moment, en recevant la miséricorde, de devenir plus grand que Jean-Baptiste en étant ses petits du royaume. C'est donc le moment où recevoir le sacrement de la réconciliation. Nous approcher de Jésus comme les pauvres, les sourds, les boiteux, les aveugles, cela se fait pour nous en nous approchant du sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Je voudrais donc maintenant vous dire un mot sur ce sacrement. La première chose, c'est que si on l'appelle confession, c'est d'abord parce qu'on confesse l'amour de Dieu pour nous. Rappelez-vous la formule traditionnelle, « Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. » On commence par recevoir une bénédiction, signe de l'amour de Dieu pour nous. Ce n'est que dans un deuxième temps, après avoir confessé l'amour de Dieu pour nous, que l'on confessera nos péchés. Le premier point de la démarche, c'est que l'on va en confiance vers celui qui nous aime. C'est l'entrée dans le royaume. On vient se refaire une beauté de l'âme. Je voudrais vraiment insister là-dessus. La confession, ce n'est pas le lieu où tout d'un coup on vient découvrir notre horreur, notre abomination, mais c'est le lieu justement où on va retrouver notre véritable visage, où l'on va retrouver la vraie limpidité de notre âme, débarrassée de la souillure du péché. C'est un moment de joie, j'allais dire, comme, passez-moi l'expression triviale, vous allez chez le coiffeur pour vous refaire une beauté, et vous allez au confessionnal pour vous faire refaire une beauté de l'âme. Nous y allons avec, j'allais dire, cette même joie et cette même confiance, et combien plus, évidemment. Je voudrais maintenant dire un mot sur ce que signifie dire nos péchés. Le péché, tout d'abord, ce n'est pas une infraction. Il y a une loi et je ne l'ai pas respectée. Il y avait une limitation de vitesse et j'ai roulé trop vite. Non, pour comprendre ce qu'est le péché, il faut le comprendre à la lumière de l'amour du Christ. Le péché, en fait, ce sont nos refus d'aimer comme le Christ aime. Voilà le péché. Le commandement du Christ, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Le péché, c'est le refus d'aimer comme il aime. Et donc, dans la confession, je viens dire ces moments où j'ai refusé d'aimer comme le Christ aimait, où j'ai refusé par rapport à mon prochain, par rapport à Dieu, par rapport à moi-même, où j'ai refusé d'aimer comme le Christ aime. Je voudrais souligner encore un point. Nous sommes appelés dans la confession à dire des actes plutôt que des défauts. Plutôt que « je suis colérique », de dire « à tel moment je me suis mis en colère contre un tel une, plusieurs fois ». Voilà, dire des actes plutôt que des défauts ou des tendances. Pour reprendre les images de l'Évangile, on pourrait dire « j'ai su que j'étais aveugle » parce que je n'ai pas vu que mon frère avait besoin d'aide. J'ai su que j'étais sourd, parce que je ne me suis pas entendu médire ou calomnier mes collègues. J'ai su que j'étais boiteux, parce que je n'ai pas pu marcher droit dans la résolution que j'avais prise. J'ai su que j'étais lépreux, parce que ma chair m'échappait dans sa convoitise et dans sa sensualité. Voilà, je m'approche de Jésus comme les pauvres, comme les lépreux, comme les sourds, comme les malades, parce que j'ai vu le signe de cette maladie du cœur à travers tel et tel et tel autre acte. Faire cet effort de dire des actes nous aide à comprendre que si Dieu est en guerre avec le péché, Dieu est venu sauver le pécheur. Quand je dis « j'ai commis des vols », je reconnais des actes dont je suis responsable. Si je dis « je suis un voleur », je risque de me réduire justement à ces actes de vol. Or, le Seigneur ne me réduit pas aux actes mauvais que j'ai faits. Il voit toujours ma personne, les actes que j'ai commis, mais je ne me réduis pas aux actes mauvais que j'ai commis. Préférons donc énoncer des actes plutôt que des défauts ou des tendances. En conclusion, retenons trois points. Premièrement, Jésus insiste pour qu'on reconnaisse bien Jean-Baptiste comme celui qui est le nouvel Élie, celui qui est l'envoyé pour préparer les chemins du Seigneur, parce que bien reconnaître Jean-Baptiste permet de bien reconnaître Jésus comme le Messie, celui qui apporte le salut et la miséricorde. Deuxièmement, ayant reconnu Jésus comme celui qui porte la miséricorde, il nous faut nous approcher de lui pour entrer dans cette béatitude qu'ont connue les pauvres, les lépreux, les sourds, les boiteux, en s'approchant de lui et en devenant participants du salut, en entrant dans le royaume. Troisièmement, nous approcher de lui aujourd'hui se réalise tout particulièrement par le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. C'est là où nous connaîtrons cette béatitude d'être réconciliés avec Dieu, de nous refaire une beauté de l'âme. Et pour cela, devant le prêtre qui est le témoin du Christ, celui qui nous aime en profondeur jusqu'à donner sa vie pour nous, nous sommes invités à confesser des actes plutôt que des défauts, en nous souvenant que le péché, c'est de refuser d'aimer comme le Christ aime. Bons échanges.